Chapitre 19. Nevéa se réveilla, rangea ses affaires dans son petit sac de voyage et quitta le bungalow de location où elle avait passé la nuit après avoir passé la précédente chez Chauncey. La veille, dans un moment de naïveté post-coïtale, elle avait suggéré à celui-ci de l'accompagner au vignoble, en ajoutant que l'exploitation proposait un hébergement sur place. Mais il avait éclaté de rire, ce qui l'avait immédiatement fait redescendre sur terre. Nevéa s'installa au volant de son pick-up et suivit l'allée de gravier sinueuse jusqu'à la nationale qui traversait le comté de New Kent pour rejoindre l'autoroute qui la ramènerait à Jefferson Run. Qui la ramènerait à ses frères, à son père et à tous les fantômes qui hantaient les rues décrépites de sa ville natale. Qui la ramènerait à Chauncey aussi. Même s'il n'était pas quelqu'un qu'elle pouvait retrouver, étant donné qu'il ne s'était jamais trouvé pour commencer. Nevéa croisa la route d'un écureuil visiblement suicidaire qui traversa la chaussée et s'arrêta au niveau de la double ligne jaune centrale. Juste à temps, elle parvint à faire un écart vers la droite pour éviter l'animal sans terminer dans le décor. Sur le siège passager à côté d'elle était posé un carton blanc rempli de paperasse. Si la boîte en elle-même avait l'air neuve, on ne pouvait pas en dire autant des documents jaunis qu'elle contenait. Le carton avait basculé lorsque Nevéa avait fait une embardée, mais elle avait réussi à le rattraper de la main droite avant que tous les papiers se déversent sur le plancher du pick-up. Nevéa le cala à nouveau contre le dossier du siège. Elle envisagea un instant de l'attacher avec la ceinture de sécurité avant de se raviser. Elle avait déjà suffisamment de raisons de se sentir ridicule. En ce dimanche matin, la bretelle d'accès à l'autoroute n'était pas bloquée. Nevéa était surprise de ne pas avoir la gueule de bois. La veille au soir, en étudiant la liasse de documents jaunis, elle avait bu une bouteille entière d'un excellent Sauvignon blanc. Cela faisait une éternité qu'elle voulait lire le dossier de sa mère, et qu'elle n'avait pas pu le faire à cause du refus systématique de son père de le récupérer au poste de police. En tant que mari et plus proche parent de la victime, c'était à ses décisions que s'en remettaient les autorités. Et ce, malgré le fait qu'il avait été considéré pendant des années comme le suspect principal. Lorsque Nevéa avait contacté le département des affaires non élucidées de Jefferson Run, elle était tombée des nues en découvrant que Bonita Carruthers n'avait pas sombré dans l'oubli. La plupart des habitants de Jefferson Run pensaient se souvenir d'elle, mais ils se souvenaient surtout de sa disparition. Pour eux, elle n'était pas une personne, mais un fait divers croustillant. Une histoire édifiante destinée à effrayer les filles et à calmer les appétits des garçons. L'inspecteur Kelly, le responsable du département des affaires non élucidées, savait tellement de choses sur la mère de Nevéa que celle-ci avait fondu en larmes au téléphone. « Elle était infirmière en chirurgie, c'est bien ça ?» avait vérifié Kelly. « L'année dernière, on a à nouveau interrogé ses anciens collègues de l'hôpital. Il y en a encore beaucoup qui y travaillent. Certains sont là depuis 20, 25 ans, et tous ont gardé d'elle un excellent souvenir, que ce soit professionnellement ou humainement. Ils nous ont raconté que lorsque le service organisait un repas, elle préparait toujours un... Qu'est-ce que c'était déjà ? Ah oui, un gratin de cheeseburger. À les entendre, c'était la meilleure chose de la terre. Est-ce que certains croient que c'est mon père qui l'a tué ? Certains, oui, avait répondu Kelly, après s'être éclairci la gorge. D'autres soupçonnent un ancien employé du crématorium, Oscar Conley. Et d'autres encore pensent qu'il pourrait s'agir d'un vagabond ou d'un marginal que votre mère aurait essayé d'aider, vu que sa voiture a été retrouvée du côté de la voie ferrée. Il y a des jours où j'aimerais savoir, et d'autres où je suis soulagé d'être dans l'ignorance, lui avait confié Nevéa, surprise par l'aisance avec laquelle elle parlait à cet inconnu de choses qu'elle n'avait jamais osé aborder avec ses frères ou son père. Tant que je sais pas, je peux entretenir un peu d'espoir. Juste assez pour avoir mal. Mais cette douleur, elle me permet de continuer à croire qu'elle est peut-être encore en vie, quelque part. L'espoir n'est pas nécessairement néfaste. Mais parfois, s'y raccrocher s'apparente à tenir un oisillon entre les mains. Si on serre trop fort, on l'écrase. Si on ne serre pas assez, il risque de mourir de froid. Ce n'est pas parce que ça paraît impossible que ça ne vaut pas le coup d'essayer. Après cette conversation téléphonique, Nevéa et l'inspecteur Kelly s'étaient donné rendez-vous au Trouts, afin qu'il lui remette une copie du dossier. C'était un bel homme à la peau très noire, et à la démarche souple et assurée. Doté d'une carrure athlétique qui laissait deviner que s'il fréquentait la salle de sport, c'était plus pour s'entretenir que par aspiration viriliste. Il s'était assis en face d'elle, et quand il lui avait souri, Nevea s'était demandé quel goût auraient ses lèvres. Puis, en fronçant légèrement les sourcils, il avait posé le carton sur la table et l'avait fait glisser vers elle. « Ça ne va pas vous attirer des ennuis, hein ?» s'était inquiété Nevea, qui cherchait à comprendre l'apparente réticence du policier. « Non, je suis le seul à bosser sur ces affaires non élucidées. Et ces documents ne sont que des copies. Les originaux sont au poste. S'ils sont aussi abîmés, c'est uniquement parce qu'ils ont été beaucoup manipulés. On est tout le temps en train de déménager nos archives. » Nevea avait levé un sourcil interrogateur. « Notre toit a fui, » avait expliqué le policier avec un sourire dépité, avant de prendre un air grave. « Écoutez, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est pas la première fois que j'ai affaire à une situation comme la vôtre. Vous pensez que vous avez besoin de lire tout ça. Vous pensez qu'apprendre les détails vous soulagera, mais vous vous trompez. Vous avez une certaine image de votre mère, et c'est bien normal, nous avons tous une certaine image de nos parents. Malheureusement, une fois qu'on a déchiré cette image en mille morceaux, on ne peut plus jamais les recoller. Il y a dans ces documents des déclarations et des témoignages qui ne sont flatteurs ni pour votre mère ni pour votre père. À titre personnel, j'estime que vous et votre famille avez le droit de savoir ce que contient ce dossier, que vous avez le droit de savoir ce que nous savons. Ce n'est pas pour autant que je pense que c'est une bonne idée. Nevea s'était dit qu'en plus de ne pas être désagréable à regarder, Kelly était quelqu'un de bien. C'était le genre d'homme à lui tenir la porte, à lui tirer sa chaise au restaurant, à vérifier qu'elle se sentait à l'aise avant de lui faire l'amour. C'était aussi le genre d'homme qu'elle ne pourrait jamais avoir, à cause de ce que contenait le carton posé entre eux. « Inspecteur, je sais que ma mère couchait ailleurs et que mon père avait un penchant pour la bouteille, » dit Nevea, « mais je vous remercie d'essayer de me ménager. » Une heure après avoir quitté son bungalow, Nevea prit la sortie d'autoroute Jefferson Run et remonta le chemin carrossable qui menait à la voie ferrée. C'était sur ce chemin que le lendemain du funeste samedi, où sa mère n'était pas rentrée à la maison, la police avait retrouvé sa voiture abandonnée. Les portières conducteurs et passagers étaient grandes ouvertes, et il y avait quelques gouttes de sang séchées sur le volant. Le rapport d'enquête indiquait que les seules empreintes digitales présentes dans le véhicule étaient celles de sa mère et de son père. Le sang sur le volant était celui de sa mère. On avait aussi retrouvé des fibres de tissu provenant d'un pantalon appartenant à son père. Les policiers avaient demandé à celui-ci s'il conduisait souvent la voiture de sa femme et, le cas échéant, à quand remontait la dernière fois qu'il s'en était servi. Il avait répondu que cela lui arrivait et qu'il la lui avait empruntée un peu plus tôt dans la semaine. « Comme par hasard », avait songé Nevea à la lecture. Le rapport précisait également qu'en dehors du sang appartenant à sa mère, il n'y avait aucune autre trace d'ADN dans la voiture. Lorsqu'elle arriva en vue du passage à niveau, Nevea se gara sur le bas-côté, descendit de son pick-up et enfila sa doudoune. La police avait retrouvé la voiture de sa mère juste devant la barrière automatique. Cette voie d'accès n'était pas ouverte à la circulation et était utilisée en journée par les cheminots et les équipes de maintenance, et la nuit par des couples en quête d'un endroit discret pour partager un moment d'intimité. En effet, comme tous les lampadaires étaient orientés vers les rails, il y faisait toujours aussi noir que dans le cœur d'un politicien. Nevea s'avança jusqu'au passage à niveau et posa les mains sur la barrière. Dans le dossier, Oscar Conley reconnaissait qu'il entretenait une liaison avec Bonita Carruthers depuis près d'un an et qu'ils avaient eu un rapport sexuel le jour de sa disparition. Après son service de nuit à l'hôpital, Bonita avait partagé un petit déjeuner avec des collègues avant de partir pour le crématorium. Dans sa déclaration, Oscar expliquait que ce jour-là, Keith Carruthers s'était rendu à Roanoke récupérer des composants pour réparer le deuxième four qui était en panne, et que lui était resté sur place pour lancer une crémation dans l'autre four, afin qu'ils ne prennent pas de retard dans leur programme. Il affirmait que Bonita était arrivée aux alentours de midi et qu'ils avaient eu des rapports intimes qui avaient duré jusqu'à environ 13h30, heure à laquelle Oscar avait quitté le crématorium pour aller déjeuner. Avant qu'il parte, Bonita lui avait proposé de prendre le reste de sa journée, arguant qu'elle pouvait s'occuper seule du premier four en attendant le retour de Kiss. Oscar avait accepté. Dans leur rapport, les policiers déclaraient avoir relevé les empreintes digitales d'Oscar et avoir effectué un prélèvement ADN, sans parvenir à trouver de correspondance dans la voiture de Bonita. Ils déclaraient également avoir récupéré des fragments calcinés dans le four crématoire fonctionnel afin de les faire analyser. Mais les résultats indiquaient trop de provenances différentes pour établir un profil ADN précis. Le rapport d'enquête concluait que, tout comme le père de Nevea, Oscar était un suspect potentiel, mais que les preuves étaient trop minces pour envisager une arrestation ou une mise en examen. Nevea songea au mantra de son père et frémit.
Je pense que Bonita était quelqu'un de bien, avait confié Oscar Conley au policier. Même si ce qu'elle faisait avec moi était mal. C'est juste qu'elle n'était pas heureuse. Kiss et elle n'étaient pas heureux.
Nevea entendit un long sifflement lugubre en provenance de l'ouest. Un train de marchandises qui descendait des collines et rejoignait les voies qui suivaient la James River jusqu'au port de Newport News et la baie de Chesapeake. La théorie de la police était que là où les personnes qui avaient enlevé sa mère avaient voulu abandonner la voiture sur les rails afin de détruire les preuves avant de se raviser au dernier moment. Pour Nevea, cette personne s'était dégonflée. S'il y avait bien une chose qu'elle avait apprise en grandissant à Jefferson Run, c'était qu'on ne rigolait pas avec les trains. Combien d'enfants avaient été réduits en une bouillie de chair, de sang et d'os, alors qu'ils jouaient sur les rails? Et il s'agissait d'histoires vraies, pas de légendes urbaines. D'ailleurs, au crématorium, il leur était arrivé plusieurs fois de se faire livrer un corps qu'un de ces monstres d'acier avait avalé, mâché, puis recraché sur la voie. Bien souvent, le corps en question n'avait pas eu la chance d'arpenter la terre plus d'une douzaine d'années. Des gosses qui voulaient traverser juste devant le train pour impressionner les copains. Des gamins qui défiaient le destin et qui, au tout dernier moment, comprenaient avec horreur que le destin était d'humeur à accepter le défi. Nevea était convaincue que l'assassin de sa mère, car elle n'avait pas été enlevée, elle avait été assassinée, n'avait pas eu le cran d'attendre que la barrière se relève pour aller abandonner la voiture sur les rails. Il avait pris peur. Peur de se retrouver coincé et de ne pas réussir à sortir à temps. Parce qu'il savait que ses jambes musclées, ses bras noueux et son large torse, c'était un travailleur après tout, ne pèseraient pas bien lourd face à un train de fret. Bonita, 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 Bonita. Nevea regagna son pick-up. Elle alluma la radio, trouva une station rock et tourna le volume au maximum. Puis elle saisit le volant à deux mains et elle cria aussi fort que le lui permettaient ses poumons. Elle cria et cria, les talons enfoncés dans le plancher, la nuque plaquée contre l'appui-tête. Elle cria jusqu'à s'en brûler la gorge. Roman se réveilla vers 13h, son cerveau encore mal remis des excès de la veille. Il sortit du lit, remonta le couloir comme un zombie jusqu'à la salle de bain et s'aspergea le visage. Après être passé aux toilettes et s'être lavé les mains, il allait retourner dans sa chambre quand il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer avec un grand claquement. Quelques instants plus tard, Nevea gravissait l'escalier, son sac de couchage sous le bras. À ses yeux rougis, Roman devina qu'elle avait pleuré. « Ça va ?» lui demanda-t-il. « Très bien, » répondit-elle, sans le regarder. « Tu vaux beaucoup mieux que ce Chauncey. »
« Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de mieux ?» rétorqua Nevea. « L'avantage des connards, c'est qu'on risque pas de leur briser le cœur. »
Et elle s'enferma dans sa chambre. Elle semblait si convaincue de ce qu'elle disait que Roman sentit son estomac se serrer. Il descendit à la cuisine et prépara du café. Après quoi, il sortit de sa poche le portable prépayé que lui avait procuré Khalil et composa le nouveau numéro de son ami. Khalil répondit à la deuxième sonnerie.
« Alors, comment ça va, monsieur le héros ?»«
Franchement, s'il n'y avait pas eu autant de gens autour de moi, c'est sûr que je me serais dégonflé. »
Khalil ricana.
« Bon, je crois que j'ai repéré une de leurs planques. » Une maison de plein pied sur Alberta Avenue. Ces deux derniers soirs, j'ai vu quatre filles différentes se pointer là-bas, au volant de quatre voitures tellement banales que c'en est presque suspect. La voiture pénètre dans le garage, la nana sort par la porte d'entrée en pianotant sur son portable, et quelques minutes après, un dealer des BBB se gare le long du trottoir et lui file les clés de sa bagnole. Environ 40 ou 45 minutes plus tard, la voiture qui était dans le garage repart. J'ai compté trois types dans la maison et un autre dans le garage, probablement tous armés. Tu veux faire ça quand ?
Roman entendit du mouvement derrière lui. Il se retourna et vit Dante descendre l'escalier, encore vêtu de ses habits de la veille. Sans un mot, celui-ci traversa la cuisine et se dirigea vers la porte. « Tu vas où ?» lui demanda Roman. « J'ai rendez-vous avec un pote pour un truc, » répondit Dante. « Tu vas te défoncer, c'est ça ?»«
On peut rien te cacher, inspecteur Gadget. »«
Attends deux secondes, » souffla Roman dans le téléphone. Il posa l'appareil sur le plan de travail et se rua vers la porte d'entrée avant que Dante ait pu l'atteindre.
« Les deux flics de tout à l'heure nous ont à l'œil, » dit-il à voix basse, afin que Nevea ne puisse pas l'entendre. « Si tu veux te défoncer, patiente jusqu'à ce soir. Tu peux pas te permettre de gober des cachetons en pleine journée pendant qu'ils sont à la recherche de Getty. Pourquoi je t'ai laissé ma voiture de location, à ton avis ? Parce qu'ils connaissent ta Challenger. T'as géré ce midi quand ils sont venus nous poser des questions. Mais s'ils t'arrêtent alors que t'es complètement fracassé, tu risques de te mettre à parler. C'est pas une insulte, frangin, c'est un fait. » Je suis un grand garçon, Rome. Je fais ce que je veux, que ça te plaise ou non. Quoi qu'il arrive, je dirai rien aux flics. Tu l'as reconnu toi-même, j'ai géré. Mais là, j'ai besoin d'air. Je t'aime, Dante, mais je te rappelle qu'on est mouillé dans une affaire sérieuse. Une affaire qui pourrait nous valoir la chaise électrique ou l'injection létale. Si tu déconnes, Khalil te fera disparaître avant que Torrent et Tranquille ait pu mettre la main sur toi. C'est mon ami. Mais il prendra pas le risque d'aller en prison pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Donc va chercher la bouteille de papa et remonte dans ta chambre en attendant que la nuit tombe. »
Dante hocha la tête.
« C'est tout ce que je suis à tes yeux. Un junkie et un poivreau. Un bébé à qui on peut donner un biberon pour qu'il la ferme. Je suis désolé, Dante, mais tu t'apprêtes à sortir d'ici comme un accro qui a besoin de sa dose. T'es bien plus que ça, j'en ai conscience, mais je vois aussi que tu souffres. Je pensais que l'alcool pourrait soulager temporairement la douleur. »
Dante eut un ricanement étouffé.
T'es tellement doué avec les mots que j'ai failli te croire. Alors que je sais pourtant que tu me dis seulement ce que j'ai envie d'entendre. Bon, je me casse. T'es plus fort que moi, donc tu peux toujours essayer de m'en empêcher. Mais je te préviens, quand t'auras terminé de me mettre une branlée, je partirai quand même. Le plus simple, c'est que tu me laisses ta bagnole. Comme ça, je pourrai raconter à tout le monde comment t'as sauvé la vie de Torrent. Y a pas mieux que les junkies pour colporter une rumeur. »
Puis, se penchant vers l'oreille de Roman, il murmura
« Et tu ne permettrais jamais que Khalil s'en prenne à moi. J'ai conscience que c'est pas le genre de mec qu'il faut emmerder, mais je te connais. Ta menace ne fonctionnera pas. »
Il saisit les clés de la voiture de location sur le crochet à côté de la porte d'entrée et sortit. Roman retourna à la cuisine. « T'es toujours là ?» demanda-t-il, après avoir récupéré son portable.
« Ouais, »
répondit Khalil.
« Ton frangin a la tête dure. J'espère qu'il va finir par apprendre à écouter. »
Roman fut pris d'un frisson si puissant qu'on aurait pu croire à une convulsion. Dante avait raison. Jamais Roman ne permettrait à Khalil de faire du mal à son frère. Malheureusement, si la situation dégénérait, il n'aurait peut-être pas son mot à dire. Il devait donc tout faire pour que les choses n'en arrivent pas là, car leur famille n'était pas prête à gérer la disparition soudaine d'un autre de ses membres. « Ne t'inquiète pas, » fit Roman. « Il sait se tenir. Ce soir, j'emmène une amie au restaurant. Ensuite, il faut que je réfléchisse à une nouvelle proposition à présenter à Torrent et à ses hommes. J'ai appris un truc qui pourrait beaucoup nous faciliter les choses. »
« Très bien. Et pour leur planque ?»«
Ce soir. Fais-le ce soir. »«
Entendu. »
acquiesça Khalil.
Au fait, il te reste un peu de liquide, non ? J'ai un contact à Washington à qui on peut faire confiance. J'aurais peut-être besoin de son aide.
Pas de problème. Et t'en fais pas, quand tout ça sera terminé, t'auras droit à une jolie prime.
J'ai pas l'habitude de travailler gratuitement, mais J'ai pas non plus oublié ce que t'as fait pour ma mère quand elle s'est fait piquer toutes ses économies. Je crois que j'ai encore de la marge avant qu'on soit quitte.
C'est gentil de ta part, dit Roman.
Le dévouement et la loyauté que je vous dois trouvent en eux-mêmes leur salaire,
récita Khalil.
C'est dans Macbeth.
Ah, toi et Shakespeare, la plus improbable des histoires d'amour.
Tu sais, beaucoup de gens le considèrent comme une espèce de snob de la haute, mais en fait, il écrivait pour le peuple. C'est pas sa faute si personne ne lui est jamais arrivé à la cheville.
Tu te doutes bien que c'est pas avec mon diplôme en économie que je vais pouvoir débattre littérature avec toi. On se voit demain ?
Parfait.
Roman raccrocha. Après avoir empoché son téléphone prépayé, il se servit une tasse de café, déverrouilla son vrai portable et composa le numéro de Jay. Cory Gardner regarda l'heure sur son téléphone. 22h. Il ramassa sa tablette, l'alluma, et l'écran afficha une roue de chargement. Au bout de quelques secondes, Cory donna un violent coup d'index sur l'appareil. La roue continua de tourner, imperturbable. Alia avait apporté la dernière livraison de la journée, et Cory avait maintenant 3 heures devant lui avant que les gars des quartiers nord de Richmond viennent se ravitailler. Chaque soir, il stockait ici jusqu'à 8 kilos d'héroïne pour le compte des BBB. Il y avait d'autres planques dans la ville, mais elles s'apparentaient plus à des salles de shoot et la cam qu'on y trouvait était en général déjà coupée, contrairement aux produits quasiment purs dont Cory et son équipe avaient la charge. Cory était une des 4 sentinelles en faction dans la maison. Il savait que si Sway le surprenait en train de regarder un dessin animé, il pèterait un plomb et lui dirait qu'ils étaient censés monter la garde. De l'avis de Cory, Sway se prenait un peu trop au sérieux. Car qui serait assez fou pour défier les BBB à Jefferson Run? Il faudrait être sacrément suicidaire. Si même les flics ne voulaient pas avoir affaire aux BBB, pourquoi se donner autant de mal pour protéger une maison que personne n'oserait jamais cambrioler? Cory tapota à nouveau la tablette, la secoua. Il était sur le point de la jeter par terre, quand l'épisode se lança enfin, et qu'il entendit les premières notes du générique résonner dans ses écouteurs. Satisfait, il s'adossa au mur de la vieille cuisine saccagée et posa les pieds sur la table. Alors que le générique touchait à sa fin, il sentit soudain une odeur d'essence. Cory abandonna la tablette et se dirigea vers le fond de la pièce. Sur la gauche, derrière la cloison détruite, il y avait un carré d'un mètre de côté, recouvert d'une bâche bleue, leur stock de produits. Tout était là, ce qui était bon signe. Ce qui l'était beaucoup moins, en revanche, c'était que l'odeur était si puissante à cet endroit qu'il dut reculer de quelques pas pour reprendre sa respiration. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, quelqu'un était sur le point d'incendier la maison. Cory agrippa la R15 qui ne le quittait jamais et gonfla sa poitrine pour pousser un avertissement en forme de cri de guerre. Mais le seul bruit qui s'échappa de ses lèvres fut un bêlement plaintif qui ressemblait vaguement à un « au feu ». Alors, il se mit à courir. En quelques enjambées, il atteignit la porte d'entrée devant laquelle était stationné Sway et sortit sous un ciel si noir qu'il paraissait bleu marine. Il avait laissé sa tablette à l'intérieur, mais il s'en fichait. Lorsque Sway le rejoignit au milieu de la rue, Cory trouva enfin la force de hurler « au feu !» Les deux autres sentinelles, Medzi et Daquan, accoururent à leur tour. Alors que Medzi, furieux, s'apprêtait à sermonner Cory pour ce qu'il pensait être une mauvaise blague, il entendit derrière lui ce qu'il décrirait plus tard comme un énorme woumph. Et une boule de feu jaillit de la porte d'entrée. Medzi et Daquan furent projetés par le souffle de l'explosion et atterrirent tous les deux sur la chaussée. Ignorant ses genoux et ses coudes écorchés, Medzi se releva aussitôt. Et dégainant son Mac 10, il se mit à canarder la maison.
« Mec, tu tires sur quoi ?»
s'écria Cory, alors que les détonations résonnaient dans la nuit comme un ricanement stupide.
« Arrête !»
Tous reculèrent, y compris Medzi, son pistolet mitrailleur encore fumant. La bâtisse était en flammes à présent. C'est alors qu'une deuxième explosion retentit, une déflagration si puissante qu'en un instant, il ne resta de la planque qu'un tas de bois calciné. Plus tard, après avoir reçu un savon particulièrement virulent de la part de Torrent, Sway confia à Cory qu'il était sûr que la seconde explosion était une grenade. Roman remplissait le verre à vin de Jay
lorsqu'il reçut le texto de Khalil, qui se résumait à un seul mot « barbecue ». Il reposa le téléphone et se servit à son tour. « Un problème ?» lui demanda Jay. « Ta petite amie qui voudrait que tu rentres à la maison, c'est ça ?»«
Je n'ai pas de petite amie, » rétorqua Roman. « En revanche, je suis particulièrement bien accompagné ce soir. »
« Mais quel charmeur, celui-là ! Et cette manière d'esquiver, on dirait Bruce Lee !»«
En même temps, je suis un grand fan. J'ai lu le Tao du Jeet Kune Do au moins 3 fois. »«
T'es le premier mec que je rencontre qui me parle de son bouquin et pas de ses films. Non pas que ça me dérange, hein ?»«
J'aime beaucoup ses films aussi, surtout Opération Dragon. » »«
Est-ce qu'avec Dante, vous vous amusiez à rejouer les combats de Bruce Lee quand vous étiez petit ?»
Ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pété le grille-pain de la cuisine. On faisait semblant de se donner des coups de pied et...
La voix de Roman se brisa.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Demanda Jay en saisissant sa main sur la table. Et Roman l'étreignit.
Rien, ce grille-pain...
Le jour où on l'a cassé, ma mère nous a engueulés comme jamais, avec des jurons de son invention. Elle a jamais eu l'occasion de le remplacer. C'est des petits trucs comme ça qui me font penser à elle. Elle a jamais pu remplacer ce putain de grille-pain.
Roman regardait derrière Jay, derrière le serveur, derrière la porte d'entrée au-dessus de laquelle figurait l'inscription « Foucheuse ». Il avait emmené Jay à Richmond, car c'était le seul endroit où trouver un restaurant digne de la robe qu'elle portait. Et voilà qu'il regardait vers le passé, qu'il retournait dans leur cuisine la semaine avant la disparition de sa mère. Il voyait son visage, partagé entre la colère et l'amusement. Il l'entendait les traiter d'andouille et de bristou, Dante et lui, avant d'ajouter une grossièreté tellement inattendue qu'ils avaient tous les trois éclaté de rire.
« Son rire me manque », dit Roman. Il remit son téléphone dans sa poche et secoua la tête pour chasser le souvenir.
« C'est bon, tout va bien », reprit-il. Et il étreignit une dernière fois la main de Jay avant de la lâcher pour saisir délicatement son verre de vin. « Allez, un toast. Aux nouvelles amitiés et aux nouvelles expériences. »«
Tu me vois seulement comme une amie alors ?» demanda Jay en l'observant par-dessus son propre verre.
« En tout cas, je te vois pas comme une ennemie, » plaisanta-t-il. Et ils trinquèrent.
Dante était vautré sur le canapé de Tug, le cerveau comme enveloppé dans du coton. Il regardait un dessin animé pour adultes pendant que, dans la cuisine, Tug et Rainel se disputaient la dernière part de tarte à la mélasse. Dulcie était recroquevillée sur la moquette, à ses pieds. Il s'était partagé un demi-flacon d'oxycodone. Dante s'était chargé d'écraser les comprimés avec une cuillère afin qu'il puisse les sniffer et obtenir ainsi un effet plus rapide. Apparemment, il avait une plus grande tolérance que Dulcie. Après 2 traces, celle-ci s'était repliée dans une espèce de position de yoga et s'était endormie presque aussitôt. Dante sentit une vibration dans sa poche. Il sortit son téléphone. Le message provenait d'un numéro inconnu et n'était pas signé, mais c'était tout comme. Il n'y avait qu'une personne au monde qui le surnommait Didi. « Tu me manques, Didi. » Dante respirait à toute vitesse, les yeux rivés sur le texto. Enfin, le visage baigné par la lumière bleutée de l'écran, il tapa une réponse à une main. « Toi aussi, Cass. »